J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme qui cherche des solutions. Quand d'autres baissent les bras, renoncent ou rechignent, quand d'autres ne rêvent que du grand soir et, ne le voyant pas venir, n'ont que mépris pour les petits pas qu'on leur propose, lui, il imagine, il projette, il négocie. Au fond, de changer le monde, au moins un petit peu, de changer le monde même un tout petit peu, c'est sa seule façon à lui de l'habiter, ce monde. Mais attention, il ne cherche pas de solution comme certains de ses contemporains les cherchent. Il ne cherche pas de solution comme Elon Musk en cherche. Il n'a pas non plus l'âme d'un ancien comme Dédale, qui, souvenez-vous, chercha toujours dans la technique le remède aux problèmes que la technique avait elle-même posé. Bref, il n'est pas techno-solutionniste. Devant les chiffres effarants du trafic aérien, devant la manière dont notre aveuglement menace l'avenir de nos enfants et risque de leur rendre notre monde inhabitable, il se tourne, pour trouver une solution, vers le passé et propose de revenir à la voile, au bateau à voile, pour décarboner l'industrie du tourisme. Devant la manière dont nous épuisons les sols de notre terre à force d'engrais chimiques et de pesticides, il se tourne, pour trouver une solution, vers la nature elle-même plus que vers les innovations scientifiques, en développant une agroécologie et une permaculture inspirées des rythmes et des cycles de la nature. Alors voilà, il essaye, il tente de faire, et il n'est pas impossible qu'il ait pris cette expression « autant que faire se peut » comme devise, qu'elle soit devenue son mantra. Mais est-ce que ça marche? Est-ce ainsi qu'on change le monde? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir un entrepreneur écologiste. Oui, vous avez bien entendu, un entrepreneur qui est en même temps un militant écologiste. Il n'a pas encore 45 ans, mais a déjà lancé un réseau de micro-fermes agroécologiques, une plateforme de crowdfunding consacrée aux projets écologiques et sociaux, un réseau de pépinières participatives pour replanter des arbres et plus récemment, SailCop, une coopérative de transport maritime à la voile, avec pour ambition, en plus de décarboner le tourisme, de nous aider à réapprendre la lenteur et la contemplation. Maxime de Rostelan est avec nous ce matin, sous le soleil de Platon et en sa compagnie, nous allons essayer de voir autant que faire se peut ce que nous pouvons faire pour aller au moins un peu moins dans le mur et pourquoi pas, puisque nous sommes la veille de Noël, essayer ce mur de le franchir.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Maxime de Rostelan.
Bonjour Charles.
Ben merci d'être venu nous voir ce matin.
Merci de l'invitation.
En cette veille de Noël. Quand j'ai prononcé cette expression qui serait votre mantra ou votre épitaphe, autant que faire se peut, vous avez souri.
Ouais, parce que je cherche toujours quel est le mantra qui me qualifierait bien, en tout cas qui me va bien, et j'en avais un autre, c'était même pas peur.
Ouais.
Même pas peur.
C'est mieux, c'est plus lyrique.
Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ça caractérise un petit peu le genre d'initiative qu'on essaie de lancer quand on a envie d'y croire, quoi.
Ouais, ouais. Alors j'ai pris quelques exemples, donc on va réfléchir ensemble à ce que c'est que l'action, on va se demander quelles sont les principales résistances que vous rencontrez quand vous tentez de mettre en place des projets comme ça. On va réfléchir aussi à la manière, finalement, de changer le monde. Mais avant cette approche très philosophique, je voudrais qu'on comprenne un peu ce que vous faites. Et peut-être que très rapidement, on envisage un parcours dans le temps avec peut-être trois des principaux projets que vous avez menés à bien. Peut-être commençons par le plus récent, SailCop.
Ouais. Mais en fait, moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a quelques années. Et comme il m'arrive de parler à des gens, de faire des conférences et de devoir leur dire quels sont les impacts de leur mode de vie, et que l'avion est évidemment au sommet quasiment de ses impacts, plutôt que d'être juste culpabilisateur et dire arrêtez de prendre l'avion, je me suis dit essayons d'offrir une alternative. Et c'est vrai qu'en voyant tous ces bateaux qui traînent dans les ports et qui sont là 360 jours par an à quai, je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas utiliser, négocier ces bateaux avec les propriétaires et proposer de les utiliser pour faire du voyage à
ouais,
la voile.
Incroyable.
Et donc on a monté cette coopérative avec, c'est une coopérative, il y a plus de 3500 sociétaires maintenant, ouais. Et on a globalement trois marchés, les marchés de courte distance, en alternative aux vedettes, ouais. Les marchés de moyenne distance, en alternative aux ferries et à l'avion.
Ça, c'est à la place de Corsica Ferry, par exemple, ouais.
Bah, à la place à côté, en tout cas, ouais, pour ouais. l'instant. et la longue distance avec des transatlantiques qu'on a lancés en partenariat avec des cargos à voile.
Genre, et aller à New York à la voile, quoi.
Baltimore, en ce moment, ouais. Ouais, ouais. Et bientôt, pourquoi pas, le Brésil, le Cap, que sais-je.
Donc, magnifique idée de revenir au vent et au bateau à voile. Ça, c'est un exemple, c'est le plus récent. Si on revient un peu dans le temps pour qu'on vous comprenne un peu, qu'on voit qui vous êtes, parlez-nous un peu des fermes d'avenir que vous aviez montées il y a longtemps.
Ouais, fermes d'avenir. Alors, en fait, je me suis intéressé à l'agroécologie et à la permaculture en arrivant par le biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature et de comprendre qu'il y a dans la nature un vivier de solutions incroyables. La nature a beaucoup plus d'expérience que nous, hein, et donc la permaculture m'a vraiment fait une petite révolution intérieure, et donc ma sœur qui est maraîchère m'a raconté son itinéraire à elle, qui était vraiment, depuis ses 17 ans, elle est partie pour devenir paysanne, elle est paysanne aujourd'hui, et c'est vrai que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut envisager différemment le moyen de se nourrir, et c'est vrai que ces grandes fermes de la Beauce ne me parlent pas vraiment, on sait les dégâts que fait l'agro-industrie, il y a 100 000 fermes qui ont encore disparu ces 10 dernières années, c'est juste catastrophique.
Et vous montrez d'ailleurs souvent que ces fermes, en fait, là, d'agriculture qu'on dit conventionnelle, en fait, elles sont pas rentables parce qu'elles sont complètement subventionnées, qu'elles détruisent les sols, alors que ce qu'on appelle l'agroécologie, pour résumer pour les auditeurs, il s'agit de s'inspirer des cycles de la nature et des ressources de la nature elle-même, on pourrait dire ça comme ça, c'est finalement plus facilement rentable.
En fait, ce qui est sûr, c'est que l'agriculture industrielle qui est très propulsée par les politiques n'est pas tenue pour comptable des dégâts qu'elle provoque, que ce soit sur la santé, le cycle de l'eau, les algues vertes, pour prendre un exemple très concret, et c'est nos impôts qui les payent, donc quelque part elle n'est pas tenue pour responsable là-dessus, de ça. En revanche, l'agroécologie prend à sa charge les surcoûts de ses bonnes pratiques, et elle n'est pas récompensée pour ce qu'elle apporte, c'est-à-dire qu'elle économise des dépenses de santé, elle régule le cycle de l'eau, elle produit même de l'eau potable, et donc clairement, si on avait un prisme plus large, on sait qu'en comptant tout ce qui compte vraiment, parce que c'est le problème de notre monde, c'est qu'on compte pas ce qui compte vraiment, on ne compte que l'argent, si on comptait vraiment aussi bien le capital naturel et le capital humain, en plus du capital financier, il n'y a pas photo, l'agroécologie est largement plus intéressante pour notre société. Ouais.
D'ailleurs, j'avais découvert, en vous écoutant un jour en conférence, cette proposition d'une comptabilité triple. Ouais. Alors, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais j'ai envie qu'on en parle, parce que c'est exactement ça que vous venez d'évoquer.
Très bien. Alors, c'est Jacques Richard qui a théorisé ça, et qui parle de comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes, donc la comptabilité CARE. Et en gros, c'est de mettre dans le bilan ou dans le compte de résultat une ligne supplémentaire sur le capital naturel et le capital humain, et voir en fait, si on déprécie ou si on apprécie ces capitaux avec nos pratiques.
Mais c'est un projet qui a jamais vu le jour, en fait, personne ne le fait vraiment.
Ah, si,
Emmanuel Faber, du temps où il dirigeait Danone, avait parlé de ça aussi.
Tout à fait, on était dans un même comité de réflexion avec Emmanuel, on a parlé de ça, et aujourd'hui, Ferme d'Avenir, l'association continue de développer ça et de déployer ça sur plusieurs fermes, donc je vous invite à regarder, et si ça se fait. En tout cas, il faut continuer à creuser pour que ce soit crédible un jour de l'appliquer.
Troisième exemple de ce que vous avez fait, et puis après on rentre dans la philosophie de l'action, un réseau de pépinières pour replanter des arbres.
Tout à fait.
En fait, les planteurs s'appellent, je crois.
Planteurs. L'association Planteurs, en fait, en cherchant des sujets, parce que je me suis fait un petit peu secouer dans pas mal d'expériences entrepreneuriales, et à un moment, j'ai eu envie de trouver du consensus, et j'ai cherché quel était le point de convergence, le point sur lequel il n'y a pas de débat, quelque part. Et en fait, il me semble que l'arbre peut être un totem de réconciliation. Alors, pas n'importe quel arbre, planter des pins dans du sable, irriguer pour faire des coupes rases dans les Landes, ça n'a aucun sens. Oui. En revanche, l'agroforesterie fait consensus. L'agroforesterie met d'accord les écologistes et les chasseurs, ce qui est quand même pas rien.
On peut définir l'agroforesterie ?
L'agroforesterie, c'est le fait de mettre dans et autour des parcelles cultivées des arbres, des plantes vivaces, des arbres, et donc des haies.
C'est le contraire de ce qui se fait le plus souvent quand on enlève des haies, que donc on fait fuir les insectes et que finalement on...
Tout à fait. En fait, remembrement, et d'ailleurs Pisani, qui était ministre à l'époque et qui a donc été le grand artisan du remembrement, s'en est excusé sur son lit de mort, presque, en disant « je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai faite ». Et clairement, on a perdu 1 400 000 km linéaires de haies, il nous en reste plus que 700 000. Et les scientifiques crient, disent « il faut absolument recouvrer au moins la moitié de ce qu'on a perdu ». Et donc il faudrait replanter d'ici 2050 750 000 km de haies. Et donc ça voudrait dire... planter 25 000 par an, globalement, et on n'en plante que 2005, et je passe sous silence, mais on en perd chaque année 20 000 km, donc du coup on est en solde complètement négatif, là où il faudrait vraiment, ça devrait être un grand chantier prioritaire national pour les écosystèmes et pour la survie de la biodiversité.
Voilà, donc Maxime de Rosselan, merci pour cette introduction, on voit mieux qui vous êtes, c'était pour qu'on ait un peu de matière, un peu de concret. Maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur et de dire, voilà, quelle est la nature de votre action ? Vous êtes... réformiste plus que révolutionnaire parce que vous tentez de négocier avec des financiers, avec des entreprises. Enfin, vous êtes entrepreneur et militant. Et au fond, de quelle nature est cette action ?
Le réformiste révolutionnaire, je suis convaincu.
C'était une question.
Je me sens plus révolutionnaire que réformiste parce que je pense qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut vraiment retourner la table. Et quand on parle de comptabilité en triple capital, c'est rien de moins que réinventer les indicateurs économiques et donc renverser le PIB et trouver un autre indicateur. La nature de mon action, je pense que c'est d'essayer d'avoir une vision. C'est marrant, à une époque, il y avait le penser global, agir local. Et moi, je le remets un petit peu en question. C'est plutôt, j'ai plus de facilité à penser local, c'est-à-dire qu'est-ce qui me touche moi personnellement et qu'est-ce que je trouve pas normal dans ce monde, que des gens dorment dans la rue, que des gens aient beaucoup trop d'argent. Et plutôt agir global. Et donc imaginer. Et donc moi, c'est un peu ma mission quelque part, c'est d'imaginer. Imaginer des projets de société et voir comment est-ce que ils pourraient advenir. Et donc, quand on parle de changer le transport de l'aviation, on voit le boom de l'aviation et pourtant on est en train de dire non, la vision d'avenir, c'est plutôt ça. Et
donc, oui, c'est vrai. Je sais pas que je retire ce que je dis, mais je comprends en tout cas votre agacement. C'est vrai que ce que vous essayez de faire, de remettre du transport à la voile, même sur des longues distances, sur les petites distances, sur les moyennes distances, en vous battant jour après jour pour que ça devienne possible, je comprends que vous entendiez ça davantage comme quelque chose de révolutionnaire que de réformiste. Je comprends très bien, vous avez raison. Surtout que vous vous tapez au quotidien d'essayer de mettre en place la chose. Vous rencontrez pas mal de résistances. D'ailleurs, si on devait identifier les résistances principales, quelles seraient-elles ? Plutôt politiques, plutôt économiques, plutôt les mentalités, plutôt financières ?
Alors, les politiques, on arrive à les convaincre. Après, ça ne veut pas dire qu'ils agissent derrière. C'est-à-dire que j'obtiens très souvent des promesses de politique. Pour autant, les promesses n'engageant que ceux qui y croient, ça ne donne pas forcément de résultats. Le côté culturel, je pense qu'on est déjà un terreau suffisant pour pouvoir imaginer et accepter ce monde qui vient, ce monde différent. Et il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans le monde actuel. Et je prends un exemple qui est un petit pas de côté, mais sur les téléphones portables, on voit bien que ce truc qui est arrivé, dont tout le monde s'est emparé, là, on commence à avoir un petit effet, un backlash, chacun individuellement. Donc les mentalités, je pense qu'on peut les avoir avec nous. Et en fait, il suffit de quelques pourcents pour faire basculer la chose. Je pense que le principal souci, on va pas se mentir, c'est l'argent.
Ouais.
C'est clairement le fait que ceux qui ont de l'argent ont été habitués à en avoir beaucoup et ont été habitués, lorsqu'ils investissent, à pouvoir faire des culbutes à x2, x3, x4, et en tout état de cause, à moins de 10%, les vrais investisseurs ont du mal à regarder quelque chose. Or, moi, ma thèse, c'est qu'au-delà de 3% de retour sur investissement annuel, globalement, on est en train de détruire quelque chose. Soit le capital naturel, soit le capital humain.
Ah oui, d'accord. Donc vous voulez convaincre des investisseurs de changer de façon de voir leur investissement, finalement.
Tout à fait, de changer de posture et de se dire, attends, j'ai suffisamment d'argent, bon, je vais vivre encore 60 ans, mes enfants, ils vont vivre 80 ans, je mets ce qu'il faut de côté, je le place, et le reste, je le redonne petit à petit, et je m'en sépare.
Enfin, Ou alors je demande une rentabilité moindre.
À 3%.
Voilà.
À 3%, on peut planter des arbres, on peut faire voler des bateaux, mais on peut faire voguer des bateaux. Ouais. Et donc, clairement, je pense que le principal frein, il est là. Et aujourd'hui, il y a un autre frein, si je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, c'est le frein culturel, mais qui est imposé par les médias quelque part, où on déplace les centres d'intérêt et les centres de discussion, les débats en fait. Parler du voile, parler de la retraite, parler de ces trucs-là, alors qu'en fait, on devrait pas avoir...
parler de la voile.
Non, mais non. On devrait parler de des conditions de vie sur Terre. Notre civilisation, dans 50 ans, si elle continue, n'a juste plus les moyens de survivre. Je rappelle juste qu'il y a des singes qui tombent des arbres au Mexique, qu'il y a des Pakistanais qui vivent pendant 3 jours d'affilée à 50 degrés. À 50 degrés, on transpire plus, on meurt. Quoi. Et ça arrive. 2025 est à nouveau l'année la plus chaude. Celle d'avant, c'était 2024. Celle d'avant, c'est 2023.
Enfin, et puis le trafic aérien a encore monté cette année.
Tout à fait. Et ça, bah voilà. Mais...
D'ailleurs, soit en concret sur SailCop et sur vos bateaux à voile, est-ce qu'on peut avoir un peu des chiffres de comment c'est en train de prendre ?
Ah bah alors nous, on a 3 ans, on a ouvert une première ligne en Corse avec 100 passagers la première année. 100 passagers parce qu'on a dû éprouver le système et surtout se cogner... un référé suspensif par les affaires maritimes, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas du tout qu'on fasse ça. Donc on y a été.
Obstacle juridique aussi,
obstacle
parfois.
Obstacle juridique, parfois.
Et institutionnel.
Ouais, tout à fait. Et donc, SailCop, la première année, c'était 100 passagers, mais la deuxième, 1000, 1300, 1500 cette année. Et là, on va construire un bateau de 80 passagers pour aller de Saint-Raphaël à Calvi. Donc, il y aura des couchettes, des sièges Pullman, et on pourra changer d'échelle. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est aussi de trouver un modèle économique Sur Cellcop, très concrètement, là, les bateaux qu'on a, il y a 2 skippers pour 8 passagers. Donc, on voit bien que le modèle est un peu fragile. Mais dès qu'on va passer à 4 membres d'équipage pour 80 passagers, on sera rentable et on sera compétitif avec la ligne de ferry dont vous parliez tout à l'heure.
Incroyable, que je ne vais pas reciter. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu des témoignages de gens qui ont pris Cellcop et ils voient des dauphins, ils voient des baleines. Ouais. Et donc, ça fait partie de leurs vacances. Et c'est ça aussi le changement de regard que vous proposez. Au lieu de dire, voilà, le voyage, c'est avant et les vacances commencent quand mon avion a atterri. Maintenant, les vacances commencent quand je monte sur le bateau, et je réapprends la lenteur, je réapprends la contemplation et puis le respect du monde.
Tout à fait, et il y a effectivement un taux de satisfaction incroyable. 75% des gens qui montent sur nos bateaux n'ont jamais dormi sur un bateau auparavant, et il y a effectivement... Je ne sais pas si c'est à lui que vous faites référence, mais Gaspard Koenig, qui a voyagé avec Cellcop et qui a fait une chronique.
J'ai reçu à ce micro, tout à fait, ouais.
Et il avait expliqué que pour lui, c'était un peu comme rentrer dans une diligence. Il dit, on rentre avec des personnes qu'on ne connaît pas, on va passer 24 heures ensemble, et en fait, il va se passer quelque chose, et effectivement, ce quelque chose est magnifique, parce qu'il y a un coucher de soleil, il y a la voile.
C'est vrai qu'il ne se passe en général pas grand-chose dans l'avion pour aller à Figari avec son voisin, quoi.
Je sais pas.
Alain disait, j'aimerais bien avoir votre réaction spontanée à cette belle phrase, le secret de l'action, c'est de s'y mettre.
Ah ouais, là c'est le mantra même pas peur, quoi. C'est dire, le fameux truc, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, et donc... Oui, je pense qu'il y a un moment où il faut que je sois sûr que dans 30 ans, le truc que j'ai monté existe encore.
Ouais.
Il faut que je constate que ça dérange les gens. C'est-à-dire qu'en gros, ça dérange l'ordre établi. Si jamais on est entrepreneur et qu'on ne dérange personne, quelque part, on fait le jeu du système. Et en fait, ça fait partie de ça. Clairement, une fois qu'on est convaincu de ces deux choses-là, il n'y a pas d'autre option que d'y aller, quoi.
On vous a parfois présenté comme un créateur d'utopie concrète, mais je trouve ça un peu bizarre parce que l'utopie, étymologiquement, c'est ce qui n'a pas de lieu. Or, vous avez créé beaucoup de lieux. Je me souviens, vous avez fait une ferme agroécologique dans un château, en Touraine, je crois, puis toutes ces fermes. Et finalement, c'est moins de l'utopie que de la réalisation.
Mais je suis assez d'accord. L'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été réalisé. Donc, du coup, c'était utopique avant qu'on en parle. Et d'ailleurs, c'est ça. L'action, c'est de s'y mettre. C'est de transformer une utopie en une réalité. Et donc, il faut réunir pas mal d'ingrédients, il faut se battre, il faut bosser, et puis il faut convaincre, et il faut pas lâcher, oui, effectivement.
Et cette phrase d'Alain, elle questionne aussi le cliché de l'entrepreneur. On dit, voilà, il fait un business plan, il va chercher de l'argent. Mais finalement, ce que dit la phrase, c'est qu'on a beau anticiper, faire un business plan, à partir du moment où on agit, ça va se passer autrement.
Ah, c'est sûr. Toujours, chaque projet, entre le moment où on écrit la première présentation, la première idée, la première vision, et ce qui se passe réellement, on a fait beaucoup, beaucoup de shifts, et ça ressemble rarement à ce qu'on avait imaginé au départ. Mais ça s'est justement construit dans le réel. Et donc, du coup, on est venu agréger toutes les réalités du terrain à son idée originelle qui pouvait paraître un peu naïve ou justement utopique. Ouais.
Quel est, dans tout ce parcours d'entrepreneur et écolo, la plus belle surprise que vous avez eue ?
La plus belle surprise. Non, je pense que l'histoire de Cellcop est assez magnifique. C'est que, pour raconter comment c'est né, à la veille de mes 40 ans, je me suis amusé à raconter les projets sur lesquels j'avais pu bosser ou réfléchir et qui n'avaient pas vu le jour. Et en fait, c'était vraiment pour ça. Je les ai mis sur les réseaux en disant, voilà, j'ai 40 ans, on a fait des trucs, il y a des trucs que t'as pas fait, je vais plutôt mettre les trucs que j'ai pas fait. Et en fait, ça a pris. C'est-à-dire qu'en gros, cette idée que je pensais à bonne à être enterrée.
Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, il s'agit de faire du transport à la voile pour aller en Corse ou même aux États-Unis.
De passagers, ouais, parce que le transport de marchandises existe depuis longtemps, mais transporter de l'inerte, c'est quelque chose qui globalement peut se faire. Transporter des passagers, c'est toute autre histoire. Et en fait, effectivement, donc je raconte ça sur les réseaux et je me fais rattraper, en fait.
Et ça prend.
Ah ouais, ça prend complètement. Et donc avec Maxime Blondeau et Arthur Levaillant, on se dit, allez, vas-y, on lance un petit formulaire pour prendre de la vraie température, et on a eu 2000 réponses en quelques heures à notre formulaire, et parmi ces 2000 réponses, une équipe incroyable s'est constituée, parce qu'il y avait des gens aux compétences géniales qu'il convenait d'agréger.
C'est vraiment un bonheur de vous écouter, Maxime de Rostelan, ça nous donne beaucoup d'espoir la veille de Noël, et pour faire résonner cet espoir, on va écouter maintenant Billie Eilish.
Where did you go?
C'était Billie Eilish, Ilo Milo.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Je ne suis pas d'accord avec la dictature des gagneurs d'argent, sauf que je les nourris chaque jour. Chaque jour, je prends ma voiture, je leur donne des sous. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est comment réduire ces contradictions, parce qu'on ne pourra pas les éliminer. Il faudra bien qu'on circule, etc. Et en plus, j'ai rien contre la technologie en soi. Mais à partir du moment où la technologie devient encore objet de profit, de malhonnêteté, d'accaparement, de dictature, à ce moment-là, elle sert finalement à des pulsions négatives de l'être humain. Aujourd'hui, le problème, c'est que la question est de savoir comment donner à des pulsions positives de l'être humain les outils de façon à ce que ce positif puisse s'épanouir. Et ça ne pourra pas passer en dehors de l'option radicale et fondamentale de la modération.
C'était Pierre Rabhi, l'auteur de La sobriété heureuse. Alors Maxime de Rostolange, je me sentis assez ému en écoutant celui qui fut, je crois, votre maître.
Ah oui, quel bonheur d'entendre la voix de Pierre. Oui, moi, c'est une rencontre. Je suis allé à une conférence quand j'avais 19 ans et j'ai bu ses paroles et puis ensuite j'ai pleuré pendant une semaine de, je sais pas, de bonheur, de réaliser voilà ce qu'il
que c'était une possible, évidence,
ouais, et que c'était possible. Et puis sa lecture du monde et ses bouquins m'ont évidemment transformé à vie. Ouais.
Et d'ailleurs, on a l'impression que quand vous montez tous ces projets qu'on a évoqués au début, donc des fermes en agroécologie, des bateaux à voile pour remplacer le transport de personnes au lieu de l'avion ou du cargo, on a l'impression que ce qui vous guide dans l'action, c'est l'évidence que demain, ça se passera comme ça, même si c'est demain dans longtemps. Vous vous dites, je vais le faire si demain, ça va être la norme.
Ouais, c'est sûr. Ma contribution n'a de sens que pour ça, en fait. C'est de dire, ok, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour que ça émerge et que ce soit la norme, mais en tout cas, on commence déjà à se faire à cette idée, à préparer l'après.
Et ouais, ouais.
D'ailleurs, c'était un truc du confinement. On va préparer le monde d'après. Et on y croyait à un moment. On s'est dit, ah, bah, peut-être que tout peut changer.
Mais ce qui est très particulier dans votre profil, Maxime de Rostolange, c'est que pour préparer le monde d'après, et alors même que vous êtes entrepreneur, que vous cherchez des financements pour des projets d'avenir, vous allez souvent chercher la solution dans le passé.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une évidence, tout est déjà là. En fait, le monde est incroyable quand on regarde un poulpe, un zèbre, enfin, je veux dire, ou un arbre, enfin, c'est incroyable. Et en fait, dans la nature, on a déjà toutes les réponses. Je rappelle un truc souvent, c'est que la Terre, elle a 4,5 milliards d'années. D'accord ?
Ouais.
Si un milliard d'années, c'est un kilomètre, elle a donc 4,5 kilomètres d'existence. La vie est apparue il y a 3,8 km. D'accord ? Les dinosaures, ils sont apparus il y a 250 mètres et ils ont tenu 200 mètres. Ils ne sont pas très intelligents, mais ils ont tenu 200 mètres.
Ouais.
L'Homo sapiens, ce que nous sommes, est apparu il y a 20 cm. C'est-à-dire qu'en gros, on a marché pendant une heure. C'est par exemple la distance entre l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense. Donc on a marché depuis l'Arc de Triomphe, on arrive à l'Arche de la Défense, on a le pied, la chaussure écrasée contre l'Arche de la Défense, il y a l'Homo sapiens qui arrive au talon. Et on découvre le pétrole, il y a 0,1 mm.
Ouais.
Comment croire que les solutions se trouvent dans ce 0,1 mm, dont on sait très bien d'ailleurs qu'il commence au 19e siècle et qu'il finit au 22e, 23e. En fait, il faut absolument réussir à inventer la société post-pétrole, enfin réussir à s'affranchir de ça, parce que sinon on n'aurait été qu'un Dirac, un accident.
Et votre approche relativiste, qui nous permet de voir sur l'échelle du temps long que finalement ce monde du pétrole a commencé il y a très 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 peu de temps, nous permet d'avoir l'espoir d'en sortir, c'est ça le raisonnement?
Alors, je ne sais pas comment on s'en sortira. Comment on en sortira? Est-ce qu'il restera 10 milliards d'humains sur cette planète? J'en suis pas convaincu. Mais en revanche, il n'y a pas d'autre solution. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait se déplacer, se nourrir, se soigner, se divertir, communiquer que grâce au pétrole. Il y a un moment où il faut lever un petit peu la tête, regarder les 3 km derrière nous, et surtout se dire, en fait, ça a tenu pendant si longtemps, et nous, là, on a tout déréglé en moins de 0, enfin, voilà. Ouais. Et donc, on n'a pas
mais
le
choix. C'est aussi le principe du biomimétisme.
Tout à fait.
Est-ce que vous pouvez expliquer ça, parce que c'était au cœur de vos différents projets?
C'est exactement ça. Le biomimétisme, c'est le fait de puiser dans la nature des solutions. Je donne un exemple. À Harare, il y a un immeuble qui s'appelle la termitière. Donc, les termites, elles vivent dans un endroit qui est tout le temps à 20 degrés, alors qu'il fait parfois 0 et parfois 50, enfin la nuit 0 et 50 la journée. Et en fait, elles ferment juste, donc elles n'ont pas d'énergie, et en fermant des conduits d'air et des puits, et ben elles arrivent à tempérer cet endroit. Et ben, y a des immeubles qui s'inspirent de ça et qui fonctionnent très bien. On n'a jamais réussi à faire voler un hélicoptère avant de regarder comment voler une libellule. Et en fait, tout est là et il suffit juste de prendre le temps. Et moi, ça me fait penser un petit peu à ce film de Doyon dans les années 60 qui s'appelait L'an 1 et le sous-titre c'était On arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Et en fait, pour moi, c'est absolument indispensable là, d'arrêter un petit peu, de ralentir, d'arrêter de vouloir en permanence inventer des nouveaux trucs et ça, juste prendre un tout petit peu de hauteur et se dire, attends, qu'est-ce qu'on a loupé, quoi? On a loupé, là. Il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de maladies, de cancers, les eaux sont contaminées. Qu'est-ce qu'on a loupé? Prenons un petit peu de temps, regardons. Et d'après moi, les solutions, elles sont
déjà là. C'est ce que vous avez dit, tout est là. Peut-être dans le passé. Je rappelle que si on pense à votre projet CELCOP de faire du transport de personnes par la voile, je crois que jusqu'à 1958, il y avait plus de personnes qui allaient aux États-Unis par la voile.
Non, pas par la voile, par la mer.
Par la mer.
Que par les airs, ouais, bien ça, sûr. Ouais. Bah, la parenthèse de l'aviation, c'est juste fou. Et l'aviation, elle tient pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'on nous oppose souvent. On nous dit, oui, mais toi, t'es utopiste, et puis toi, ton truc, il tient pas économiquement. Je suis désolé. L'aviation, si jamais elle payait son kérosène, s'il y avait pas des aides, des collectivités pour ouvrir des aéroports et pour baisser le prix des avions, ça ne marcherait pas.
Vous voulez dire, si on appliquait le principe de la comptabilité triple aux compagnies aériennes, ça ne tiendrait pas?
Mais en fait, même l'agriculture industrielle, elle est complètement sous perfusion. 10 milliards d'euros, c'est le premier budget de l'Europe, c'est la PAC. Ouais. Et en gros, si jamais on n'avait pas d'argent public pour financer l'aviation ou pour financer l'agriculture industrielle, eh ben en fait, elle ne tiendrait pas.
C'est les subventions de la PAC.
Ouais.
Mais vous dites, tout est là. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses qui, dans le registre de ce qu'on appelle le technosolutionnisme, sont quand même nécessaires? Est-ce que parfois vous ne doutez pas de ce que vous venez de dire?
On doute toujours, et puis on doute à chaque fois qu'on sort le téléphone de sa poche en se disant, si j'avais pas ce téléphone, j'arriverais pas à répondre, je pourrais pas monter ce projet. Donc oui, mais comme le disait Pierre dans l'extrait que vous avez fait entendre, globalement, si jamais ces solutions, elles ne contribuent qu'à alimenter le problème, en fait, du capitalisme, qui est une concentration des richesses, une course effrénée, une dérégulation de toutes les normes, globalement, non, mais là, les fermes, par exemple, les fermes qui sont hyper robotisées, maintenant, les tracteurs, ils se conduisent tout seuls. Enfin, je veux dire, il y a 2% des agriculteurs qui ont un tracteur dans le monde. Hein. Les paysans d'Inde, ils n'ont pas de tracteur, et c'est eux la grosse majorité des paysans. Je crois que je ne suis pas contre la techno, mais je pense que c'est pas... Enfin, qu'elle sert plutôt à nous divertir ou à ouvrir des nouveaux champs. Et puis, alors là, j'ose un truc, mais si toutes ces technologies nous aident à gagner en productivité, à quel moment on récupère le temps gagné? Est-ce qu'il y a pas, enfin, parce qu'on nous parle toujours de travailler plus, pour gagner plus ou moins d'ailleurs, mais travailler plus longtemps, mais en fait, on a gagné en productivité de manière incroyable, et puis on continue de nous dire qu'il faut bosser plus. Donc à quel moment on se dit stop? Et puis il y a des activités, bon, ça c'est David Graeber, mais il y a des activités qui sont clairement toxiques, et donc donner un boulot à, pour faire n'importe quoi...
Par exemple, activité toxique?
Non mais, moi je suis toujours énervé contre la pub en fait. Ouais. Moi, le monde de la pub me rend fou, quoi. Il y a 30 milliards d'euros qui sont engloutis là-dedans pour nous vendre des trucs dont on n'a pas besoin. Les trucs dont on a besoin, en fait, globalement, on sait ce que c'est, quoi.
Les panneaux publicitaires allumés la nuit?
Ouais, non mais ça vraiment, c'est, pour moi, c'est presque anecdotique. anecdotique, ce petit truc d'énergie. Enfin, c'est pas bien, évidemment. Et j'ai fait partie du clan du néon hein, en 2007.
Ah oui.
En 2007, on allait éteindre, je sais pas si vous voyez, les petits blocs blancs.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, nous, on s'amusait à l'époque
à
faire le clan du néon. Et donc, vous pourrez retrouver des archives.
Ah, vous allez les faire sauter.
Ouais,
tout mais à fait. En détruisant. Ou alors...
Pas du tout. En fait, il y a un interrupteur extérieur. C'est pour des raisons. Les
pompiers. Là, vous parlez des néons qu'on voit la nuit dans les
tout
rues.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et les auditeurs qui voudront rechercher pour retrouver des vidéos d'archives. Avec
En tout cas, si un jour je vois une pub dans Paris éclairée pour Sailcop, je vous appelle.
On n'y est pas.
Je vais vous faire écouter Maxime de Rostolan, la voix de René Dumont, candidat aux élections présidentielles, écoutez bien, agronome, en 1974.
Je ne suis pas un candidat doux rêveur. Je présente ici un programme écologique, un mouvement écologique. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis.
Incroyable, c'était René Dumont, agronome, candidat à la présidentielle en 1974. Maxime de Rostolan, vous n'étiez même pas né.
Ah non, j'étais pas né, mais en revanche, l'eau était mon premier sujet d'intérêt, puisqu'en fait, j'ai fait, à la sortie de mes études d'ingénieur, j'ai fait un tour du monde de 2 ans sur le thème de l'eau pour aller rencontrer en camion, pour aller à la rencontre des problématiques locales de l'eau. Et clairement, on voit que le cycle de l'eau est complètement déréglé. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est très multifactoriel. Les industries, l'élevage, l'arrachage des haies. Là, on voit que toutes nos nappes sont polluées aux polluants éternels. Enfin, il y a un gros enjeu là. Il y a des marques d'eau minérale qu'on ne citera pas qui devraient arrêter tout simplement de vendre des bouteilles d'eau.
Et en plus en plastique.
Ouais.
Alors, votre travail me paraît intéressant pour questionner la relation entre le savoir qu'on a des problèmes et les actions qu'on arrive à mettre en place. Si on se souvient de 1974 déjà, on voit bien que ça fait longtemps qu'on sait.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup les rapports du GIEC. On sait, mais ça nous paralyse, en fait, au lieu de nous lancer vers l'action. Ce que je trouve très salutaire dans votre existence, Maxime de Rostolan, c'est qu'en fait, on a peut-être besoin de voir des choses commencer à se mettre en place pour, en fait, que le passage se fasse entre ce qu'on sait devoir faire et ce qu'on ne fait pas. Peut-être qu'il faut juste voir le début de l'action.
Ouais, effectivement, on prétend pas faire le grand soir et la révolution. On pose des jalons sur le chemin d'un avenir désirable et résilient, quoi. Et clairement, aujourd'hui, le passage à l'action, c'est un vrai sujet. Et j'ai pas la recette. Hein.
Parce que c'est comment vous l'interprétez, vous, le fait que finalement, ça bloque, quoi, entre le passage de la conscience à l'action ne se fait pas.
Je tenterais peut-être un truc sur le côté individualiste des gens. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on peut avoir en passant à l'action. Par contre, on sait ce qu'on perdrait. Et quelque part, on se contente de ce qu'on a. Et les gens, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des politiques, hein, c'est de maintenir les gens dans un niveau de confort suffisant pour qu'ils n'aient pas à réfléchir beaucoup à autre chose. Alors, on peut questionner le continent africain qui, pour le coup, est totalement en deçà de ses besoins et qui, du coup, passe à l'action et traverse l'Atlantique, la Méditerranée au péril de sa vie.
Ouais, il y a une autre interprétation possible, c'est que les bénéfices qu'on en retirerait, si on commençait à changer, mettraient trop de temps à arriver, donc on n'arrive pas à se mettre en place, quoi, à se mettre en route.
Aussi, ouais, le délai, c'est vrai que c'est diffus. C'est-à-dire qu'en gros, mettre de l'agroécologie sur les territoires, il va falloir un bout de temps avant que les nappes soient nettoyées des polluants. Et voilà. Et donc, peut-être que. Et c'est marrant parce que dans certains projets, quand j'ai des projets à long terme et que j'essaie d'embarquer des gens, il y a parfois des gens qui me disent non, mais là, c'est dans un an qu'on va créer la boîte, donc non, laisse tomber.
Ouais, dans un an, ça leur paraît loin. Mais c'est vrai que par rapport à l'agroécologie, par rapport au fait de ne pas mettre dans les sols d'engrais chimiques ou de pesticides, L'objection qui vous a été souvent faite, c'est de toute façon les sols sont tellement pourris que c'est pas dans ta micro-parcelle, elle va être contaminée par le reste. Ouais. Et c'est une sorte d'objection qu'on fait tout le temps.
Oui, mais ça, moi, je balaie. C'est comme les gens qui disent, mais tu prends pas l'avion, mais l'avion, il va quand même décoller. Ok, mais en fait, là, c'est l'histoire du colibri, je fais ma part. Et même si le colibri a un petit peu de plomb dans l'aile et qu'on sait qu'il faudrait, là, pour étendre l'incendie, plutôt aller chercher à la caserne les pompiers, malgré tout, il faut continuer à faire ce qu'on peut, parce que c'est le seul truc sur lequel on est vraiment prise, quoi.
On va écouter maintenant Maxime de Rostolan pour faire résonner votre propos et puis tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans le combat qui est le vôtre. Camille Etienne, de retour de la COP30.
Oui, c'est très simple. Le nombre de badges qui ont été, donc de places qui ont été données dans les négociations, année après année, n'ont cessé d'augmenter, les places qui ont été données au lobby du pétrole. Aujourd'hui, dans les COP, vous avez plus de personnes qui représentent les intérêts privés du pétrole que de personnes qui représentent les États. La plus grande délégation, c'est celle dans l'industrie pétrolière. Donc on demande de résoudre la question de la malaria en invitant les moustiques à la table. C'est plus possible. Donc nous, on veut simplement, avec beaucoup d'humilité, être là aussi et ne pas leur laisser toute la place.
Voilà, ne pas inviter les moustiques à la table pour régler le problème de la malaria.
Ouais, non mais les COP, c'est, pour moi, c'est déprimant. Et j'avoue que j'étais à Copenhague en 2009, à Paris en 2015, et que depuis j'ai abandonné. Et je préfère être dans l'action pour le coup. Parce que...
Mais elle dit qu'il faut y aller quand même.
Ah non, mais après, chacun a sa place. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde ne peut pas faire tout. Et Camille est incroyable dans ce qu'elle fait. Il faut qu'elle continue. En plus, elle y est allée à la voile et je l'ai aidée à trouver des financements pour cette aventure. Et je crois qu'elle va rester un petit peu encore sur un bateau pendant quelques temps là.
Maxime de Rostolan, c'est vraiment passionnant de vous écouter. On va après envisager les critiques que vous avez reçues. Notamment, on vous a reproché, si je reprends les termes de Camille Etienne, peut-être de trop parler avec les moustiques, de trop discuter avec les moustiques en question. Eh bien, on va en parler. Mais d'abord, on écoute Sam Sauvage, le justement titré « La fin du monde ». Sam Sauvage, la fin du monde.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours en cette veille de Noël avec Maxime de Rostelan et justement la fin du monde, nous essayons de l'éviter et de mettre en place avec vous, grâce à vous, des projets concrets. Je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure que vous avez lancé Sailcoop, une coopérative de transport de personnes à la voile, que vous avez fait beaucoup de travail pour replanter des arbres, pour monter des fermes en agroécologie, en permaculture, et j'en passe. Mais vous avez aussi, sur ce chemin, été souvent attaqué, souvent critiqué, notamment pour votre façon d'aller chercher des financements et de dialoguer avec des grands patrons.
Oui, ça c'est clair que il y a beaucoup de une quête de pureté parmi dans le monde écolo et clairement quand on arrive à faire des projets, bah c'est quelque part on a réussi à les financer et il faut réussir à trouver cet argent quelque part et ce que les gens qui critiquent n'ont jamais pris le temps de demander, c'est quelle contrepartie il y avait eu en face de cet argent. Il n'y a jamais eu de contrepartie, il n'y a jamais eu de campagne de communication et on m'a jamais récupéré les projets que je pouvais faire pour faire. Passer pour du greenwashing. Donc, oui, après, moi j'ai...
Je me souviens qu'on vous a traité de macroniste, ce qui, venant d'une certaine ultra-gauche, est une vraie insulte, qu'on vous a reproché d'être trop proche, vous réfléchissiez au sein du groupe Carrefour à comment réformer l'agriculture,
ouais,
on vous
a reproché tout ça. Alors, donc du coup, on a travaillé. Alors, il se trouve que macroniste, c'est parce qu'il y a des photos, le candidat, avant d'être président, le candidat était venu sur la ferme que j'avais montée, ouais, à la Bourdaisière, et donc il y avait des photos, et les gens qui me traitent de macroniste ne m'ont jamais demandé quelle avait été la relation, mais le candidat m'a proposé, via ses équipes, de participer à sa campagne, ce que j'ai refusé. Je m'en suis clairement expliqué sur les réseaux. J'ai fait la lettre que je lui ai répondu, je l'ai rendue publique, ce qui fait qu'on a toujours gardé une relation un petit peu piquante avec le président. Mais j'ai jamais adoubé ce qu'ils faisaient du tout, au contraire. Et d'ailleurs, il se trouve que sur trois projets, j'ai attaqué l'État en justice, hein, oui, avec les équipes qu'on a montées, que ce soit sur Planteur, on a mis en demeure Castex, Pompili de Normandie, à l'époque où on leur a tordu le bras pour leur dire il faut absolument penser filière, oui, penser à l'avenir de l'agroforesterie et donc du coup à la production de plants en souveraineté locale. Et avec Sailcoop, on a combattu, alors on a eu le soutien de l'État pour le coup, mais on s'est battu contre les armateurs et donc du coup on a fait un référé suspensif pour entrave à la liberté d'entreprendre et on a donc gagné, on a remporté un statut d'expérimentation.
Référé suspensif, ça veut dire quoi ?
Pardon, un référé suspensif, ouais, c'est-à-dire qu'en gros on arrête une décision de justice, on la suspend. D'accord. Et on dit en fait cette décision elle n'a auprès du tribunal administratif et on dit attendez, pause, ce qui vient d'être dit n'est pas valable et donc on va aller nous le apporter une contradiction.
Donc en fait qu'on comprenne bien, on imagine que c'est le lobby des armateurs qui a essayé de vous barrer la route et c'est là que vous avez fait une...
Tout à fait. Alors en fait, ils n'avaient pas peur de Sailcoop parce qu'en fait quand on transporte 10 passagers, 1000 passagers, 1500 passagers sur la saison, c'est pas grand-chose, hein. Un ferry, c'est 2000 passagers, ouais, il en part 8 par jour. C'est surtout, ils avaient peur plutôt des bateaux de propriétaires qui pourraient faire du transport régulier sur des petites distances. Donc typiquement, le semi-rigide qui se mettrait sur la plage de Hyères et qui ferait du Hyères-Porquerolles en Uber.
Oui, enfin, ouais.
Et en fait, ils avaient peur qu'on ouvre la brèche. Et donc on a pris des dispositions pour pouvoir garantir qu'on allait pas verser là-dedans, puisqu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment du transport de passagers moyenne distance, en l'occurrence.
D'accord. Donc, en fait, même pour aller dans ces petites îles, vous proposez des trajets, mais pour le coup, à la voile.
Oui, tout à fait. Alors là, on a ouvert les Glénans, on a transporté, ouais, 20 000 passagers, enfin 18 000 passagers, pour être précis, l'année dernière. Donc, on a construit un bateau. Pour le coup, on a choisi de développer un outil de travail qui soit très performant à la voile, parce qu'en fait, souvent, les bateaux que vous voyez et qui ont des voiles, je ne vais pas citer, mais la voile, c'est de la déco. Et donc on a consulté un cabinet d'architectes navals, c'est celui qui fait les ultimes ou les bateaux de course, donc les F1 des mers, et on leur a dit écoutez, on va vous donner un petit cahier des charges un petit peu rigolo pour vous, on veut que le truc soit accessible au PMR, qui embarque et des toilettes, et qu'en plus on puisse embarquer 80 passagers. Et donc du coup, ils ont construit, donc c'est VPLP, ils ont construit ce bateau, et donc c'est le Sailcoop 61, et donc maintenant on a un outil de travail qui est très très efficace.
Vous avez attaqué donc en justice l'État, et puis aussi vous avez eu un problème de loi. Je crois qu'au moment où vous avez lancé le crowdfunding, c'était illégal de rémunérer ceux qui vous prêtent de l'argent, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, oui. Alors Bluebees, en fait, moi je revenais de mon tour du monde et j'avais vu des entrepreneurs qui partout dans le monde voulaient avoir accès au crédit et qui n'y avaient pas accès. Les banquiers les envoyaient balader ou alors leur proposaient des taux d'usure. Et quand je suis rentré et que j'ai vu que des premières plateformes de crowdfunding apparaissaient, My Major Company, KissKissBankBank, Babylon, je me suis dit, mais c'est génial, sauf qu'en fait, là, on propose aux citoyens de payer pour donner ou pour prêter, alors qu'on pourrait vraiment jouer le jeu des entrepreneurs et dire, ah, t'es tel entrepreneur, t'as besoin qu'on te préfinance ta récolte, tu sais que tu vas gagner de l'argent, et ben on t'avance cet argent et tu nous rends avec un petit intérêt. Et en fait, ça, j'ai épuisé 4 avocats.
Et ça, c'était illégal.
Ça, c'était illégal. En fait,
et pourquoi, d'ailleurs ?
Parce qu'en fait, c'est le monopole bancaire, hein, donc tant qu'on n'est pas établissement de crédit, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de jouir de ce privilège de pouvoir servir des intérêts au grand public. Et donc 4 avocats se sont cassés les dents dessus, et ça a duré 4 ans, et le 5e, Marc, merci à toi, nous a emmenés à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers, et donc on a pu, le 9 novembre 2012, avoir une lettre qui disait, bon, écoutez, on voit pas vraiment de contre-indication à ça, le jour où le législateur devra fouiller, attention, il regardera pas que ça, mais nous, on s'y oppose pas. Et donc du coup, on a ouvert ça, et donc avec cet avocat, on a écrit un livre blanc qu'on a remis à Fleur Pellerin en 2013, et ça a donné une partie de la loi à Hamon qui a libéralisé ça. Et donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est dire si ça dérange personne, c'est qu'on n'est pas en train de changer le monde. Là, on a clairement dérangé les banques, et c'était un signe qu'on était sur la bonne voie, quoi.
Maxime de Rostolan, on comprend votre manière de faire, d'affronter le réel, d'essayer de faire avancer les choses. Quel est le rapport, on va prendre un peu de distance, entre l'action et l'imagination, selon vous ? Parce que finalement, il faut y penser à la base. À la base, il y a une idée, souvent.
Je pense qu'il faut être rêveur. C'est-à-dire qu'en gros, il faut ne pas perdre ses rêves de vue. Il faut qu'ils soient suffisamment gros pour qu'on puisse avoir une chance d'en toucher un petit bout à la fin. À partir du moment où on imagine quelque chose, après, je pense qu'il y a une forme de confiance en soi aussi. Hein. Il faut savoir qu'on est équipé et qu'on est entouré et savoir qu'on sait s'entourer. Parce qu'en fait, moi, tous les projets que j'ai montés, dès le premier jour, je suis pas seul. Dès le premier jour, j'en parle à quelqu'un. Et en fait, si jamais j'arrive à convaincre quelqu'un, je me dis, je vais réussir. Et quelqu'un qui, en plus, apporte quelque chose d'important pour le projet, je me dis, super, je vais pouvoir convaincre d'autres. Et donc, je pense qu'il y a un jour, une des personnes qui me finance souvent, Christian, merci, il m'a dit, écoute, je lui demandais pourquoi il me finançait souvent les projets. Il m'a
dit. C'est un banquier ?
Pas du tout, c'est pas un banquier. C'est quelqu'un qui veut même pas être connu.
D'accord.
C'est,
il a de
quelqu'un qui est généreux, qui a de l'argent, ouais. et quand je lui demande, mais pourquoi tu finances mes projets ? Merci, hein, mais pourquoi tu me finances mes projets ? Il m'a dit, ton enthousiasme est contagieux. Et donc, en fait, je pense que ça m'a vraiment touché, parce que je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, montrons les choses positivement, et quand on se prend la tête avec des gens qui n'ont pas les mêmes stratégies, hein, parce qu'on parle de se faire... d'avoir des critiques, c'est souvent par ses frères ou ses cousins qu'on se prend des critiques.
Ouais, c'est au sein de ceux qui sont proches. Finalement, on se déteste d'autant plus qu'on est très proches.
Mais non, mais c'est dingue, on est d'accord sur 90% du constat, on a des stratégies différentes, et sous prétexte qu'eux n'arrivent pas quelque part à mettre en place leur stratégie devient défoncer les autres qui essayent d'autres stratégies. Ouais. Alors, je ne sais pas quel plaisir, quelle satisfaction ils trouvent là-dedans, mais moi, ça me rend un petit peu...
C'est ce qu'on appelle en psychologie la haine des petites différences.
Ok, sans doute. Mais ça ressemble à ça. Et puis, moi, ma réponse, c'est de dire, mais arrêtez, si vous voulez taper sur moi, mais au moins... Essayez la vôtre de stratégie, parce qu'on ne voit pas.
Et donc, alors... Il y en a quand même une autre. Si je continue à me faire l'avocat du diable et à me faire aussi la chambre d'écho de certaines critiques, on pourrait aller plus loin et dire, voilà, vous voulez faire. Et au sein du monde, essayez d'améliorer les choses. Plutôt, la métaphore, c'est que vous rentrez dans l'avion pour le détourner, même si vous ne prenez plus l'avion par ailleurs, plutôt que de refuser toute complicité avec ce monde. Et on pourrait vous objecter que, peut-être, au lieu de faire au mieux et de faire autant que faire se peut, ce qu'il faudrait faire pour être vraiment radical, c'est ne rien faire.
Ouais,
et s'asseoir et dire non.
Bien sûr. Et donc j'ai pas mal de potes qui sont là-dedans, qui sont dans le rejet et qui disent on va créer de l'entropie. Et certains amis, notamment qui ont les moyens, qui disent attends, moi j'ai les moyens, j'ai pas besoin de travailler. Si je cherche, oui, quoi qu'il en coûte, un boulot, je vais finir par faire quelque chose qui n'est pas bien.
C'est un privilège aussi.
En vrai, Masanobu Fukuoka, dans La révolution d'un seul brin de paille, dans un bouquin qui est fondateur de la permaculture, en revient. Ça veut dire, il dit, on ne peut pas faire juste du non-agir. Il faut quand même que la main du jardinier, à certains moments, fasse quelque chose. Donc, rien faire du tout, j'y crois pas.
Mais en tout cas, je vois que ça vous touche et que vous êtes proche de ces gens. C'est bien ce que vous disiez tout à l'heure.
Complètement. Mais et pareil, quand vous dites que je suis dans l'avion, c'est une critique que je fais à plein de gens qui, eux, pensent vraiment changer le système de l'intérieur en étant dans des grandes boîtes du CAC 40. Moi, je fais une école d'ingénieur, la majorité de mes... En plus, avec une grosse tendance chimie. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mes camarades d'école qui bossent chez Total. Et globalement, ouais, ils disent, ouais, mais on va changer les choses de l'intérieur. Et ça, pour le coup, c'est être dans l'avion. Moi, je suis pas dans l'avion.
Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est pas... vous êtes pas dans l'avion comme celui qui bosse chez Total, on est d'accord. mais vous refusez pas, en tout cas, la discussion.
Non, mais en fait, moi, j'aime les gens. C'est-à-dire que j'aime beaucoup parler aux gens. Et en fait, quand des gens prétendent, qui sont dans l'avion, clairement prétendent qu'ils essayent de changer les choses, ça m'intéresse de parler avec eux. Et puis, quand des gens qui ont de l'argent sont sensibles au sujet qu'on porte et sans aucune contrepartie, parce qu'ils veulent pas être cités par exemple, disent on va financer tel ou tel projet, et là on a l'impression que j'ai plein de financeurs, en fait je passe quand même ma vie à faire la manche, hein, pour essayer de planter des arbres, c'est une galère totale et on a vraiment beaucoup de mal à financer ces projets, et d'ailleurs l'État se désengage énormément, le pacte en faveur de l'AS s'est fait détricoter en quelques mois, et donc il n'y a plus d'argent public. Le backlash écologique est réel, et donc les entreprises sont beaucoup plus frileuses, et il y a énormément d'associations aujourd'hui qui tirent la langue et qui sont en train de mettre la clé sous la porte, et donc du coup c'est pas normal.
Maxime de Rosselan, dernière question, vous n'êtes jamais dans le découragement ?
Non, je crois pas. Alors moi j'ai une petite recette, c'est faire la fête. Et les gens qui me connaissent savent que c'est le vrai truc que je sais faire depuis que j'ai 15 ans, c'est organiser des grosses fêtes.
C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans votre portrait, mais avant de monter tous ces projets, vous avez organisé des fêtes incroyables dans les catacombes parisiennes.
Exact. Ouais. On avait emmené plus de 1000 personnes dans les catas. Il ne faut pas que la police m'attende à la sortie du studio.
Il y a prescription, non ?
Ouais, il y a prescription. Mais on fait ça, et puis pas que dans les catacombes. Mais en tout cas, faire la fête, ça permet de lâcher un peu et de voir de la joie et des gens qui sourient et qui dansent. Et ça, il n'y a rien de plus fort.
Ça me paraît une excellente conclusion en cette veille de Noël. Faire, c'est aussi faire la fête, c'est faire plein de choses. Je vais essayer, pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, de résumer la philosophie de la vie que j'ai entendue. Donc un mélange de Alain et de Pierre Rabhi, je dirais. Alain, parce que le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Pierre Rabhi, parce que il faut faire sa part. Vous avez évoqué d'ailleurs cette belle phrase du colibri, même si c'est pas sûr que ça marche. De toute façon, on se sent mieux en le faisant. Et puis surtout, on ne connaît pas les effets de seuil. On ne sait pas ce que l'action va générer comme action chez les autres. Donc moi, je fais peut-être ma part, mais je peux pas savoir exactement comment ça va motiver ou inspirer les autres pour faire leur part. Et puis voilà, autant que faire se peut, faire et non pas ne rien faire. On a fini sur cette dialectique. Il y aurait une tentation de la radicalité, mais vous êtes radical à votre façon, non pas en refusant de faire, mais en essayant de faire au mieux et de faire chaque jour un peu plus. J'aurais envie de finir avec cette phrase de Lao Tzu que vous devez connaître, « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ». Merci beaucoup Maxime de Rosselan de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été préparée, super bien préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Louise Tempero. À la programmation musicale, Valentine Chedebois. Et franchement, Billie Eilish, c'était parfait, parce que c'est votre fille, je crois, Iris, est complètement fan de Billie Eilish. Alors bravo Iris, et vous avez très bon goût. Émission réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique Théo Lobader. Merci beaucoup, à demain avec Thierry Lhermitte.